Des livres RMC. Fred Hermel.
Souvenez-vous du premier bouquin qui vous a marqué quand vous étiez enfant ? Moi, je n'ai pas oublié Dag et ses amis, un livre de Y. Hotsveg, traduit du norvégien, qui racontait l'histoire d'un petit garçon de 7 ans qui découvrait la vie. De l'achat d'un poisson rouge à la mort de son grand-père, en passant par le complexe des taches de rousseur, je connaissais par cœur les aventures de ce gamin de mon âge. Beaucoup plus tard, il m'est souvent arrivé de feuilleter ce livre de la merveilleuse collection Bibliothèque de l'Amitié, alors que des poils avaient colonisé mon menton. Encore aujourd'hui, je conserve ce bouquin comme une relique. Vous connaissez ma voix sur le foot dans l'after, sur l'actualité chez Estelle Midi. Désormais, cette voix sert aussi toutes les deux semaines à partager l'amour des livres. Bonjour et bienvenue dans le troisième épisode du podcast littéraire de RMC. Des livres RMC, c'est parti ! C'est un scandale d'État et une histoire humaine déchirante. Entre 1962 et 1984, plus de 2000 mineurs de l'île de La Réunion et relevant de l'aide sociale à l'enfance ont été déplacés de force vers la métropole, en particulier vers la Creuse, et ceci afin de pallier l'exode rural. Dans un magnifique roman paru aux éditions Fayard et intitulé « Danse avec tes chaînes », Annaëlle Jonas raconte le destin d'une fratrie victime de ce douloureux et inexcusable déracinement. Bonjour Annaëlle Jonas.
Bonjour Fred.
Vous êtes journaliste, poétesse, et vous publiez donc ce premier roman qui m'a totalement bouleversé. Alors je vous le dis dans toute simplicité, votre livre est la plus belle découverte de ce qu'on appelle la rentrée littéraire de septembre. Alors vous partez d'une histoire vraie, connue comme les enfants de la Creuse.
Oui, c'est ça. C'est arrivé dans les années 60 à 80. Donc, vous l'avez très bien expliqué, ce sont des enfants réunionnais qui ont été déplacés dans la métropole, d'une part pour pallier l'exode rural dans les endroits comme la Creuse, mais aussi pour lutter contre la surpopulation à l'île de La Réunion. Et ces enfants ont été arrachés à leur famille et envoyés dans des foyers en métropole.
Alors, comment avez-vous entendu parler de cette histoire ? Alors, c'est vrai que elle existe hein, dans la mémoire collective française, mais on n'en parle pas beaucoup. Hein. C'est quelque chose d'un peu caché. Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire un roman sur le sujet ?
Non, on n'en parle pas beaucoup. Moi, j'ai toujours été intéressée par les thèmes de l'identité, l'immigration, la famille. Et cette histoire, elle rejoint un peu tous mes intérêts. Et d'autre part, je suis d'origine malgache. Et ma tante est réunionnaise, donc j'ai grandi avec les histoires de l'île de La Réunion, dont cette histoire, cette affaire. Et c'est comme ça que j'ai eu vent de tout ça, parce que sinon, je pense que je n'y serais pas vraiment arrivée.
C'est-à-dire que votre tante raconte cette histoire, c'est quelque chose qui est resté dans la mémoire des Réunionnais ?
Oui, c'est resté dans la mémoire. L'autre jour, j'ai fait une rencontre dans le cadre d'un festival créole, et les Réunionnais me disaient, nous, là-bas, on en parle, et c'est tellement important pour nous, mais... Ici, en métropole, personne n'est au courant.
C'est resté une blessure, déchirure là-bas.
Oui, tout à fait.
Oui, parce que ça a touché finalement plus de 2000 enfants. C'est beaucoup, beaucoup de familles.
Tout le monde connaît quelqu'un qui a été touché par cette affaire là-bas.
Donc, en fait, comment ça se passait ? L'aide sociale à l'enfance, donc les assistantes sociales, aller voir des familles un peu dans le désœuvrement, des familles monoparentales, des familles qui avaient des problèmes d'argent, etc. En fait, ce qui est terrible, c'est que les assistantes sociales essayaient de convaincre les parents de laisser partir leurs enfants en métropole.
Absolument, mais ils leur promettaient que...
Et quand ils faisaient qu'est-ce qu'ils racontaient ?
Donc, ils allaient directement les voir, et puis ils leur disaient, vous savez, vous avez pas mal de problèmes, on peut vous arranger ça, on vous envoie votre enfant en métropole, et là-bas, il aura un meilleur avenir, il pourra faire des études, et puis il reviendra à chaque vacances pour vous voir, et ce sera le mieux pour lui. Et donc, les familles qui, en plus, pour la plupart, avaient des problèmes d'argent, comme vous avez dit, certaines ne savaient pas lire ou écrire, on leur montrait un contrat et...
Ils signaient, sans savoir ce qu'ils signaient.
Voilà.
Oui, parce que ce qu'ils signaient, c'est qu'ils perdaient l'autorité sur leurs enfants.
C'est ça.
Parce qu'ils devenaient pupilles de la nation. C'est-à-dire que ces enfants étaient arrachés à leurs parents et l'autorité était donnée à l'État.
Voilà.
C'est-à-dire que ces parents-là n'avaient plus aucun droit sur leurs enfants.
Voilà. Et quand ils essayaient de reprendre contact avec leurs enfants, ils n'avaient plus aucun droit. Donc, quel intérêt ?
Donc, la promesse qu'ils vont revenir pendant les vacances, c'était faux ?
C'était totalement faux. Après, je ne sais pas si à ce moment-là, les assistantes sociales réalisaient que c'était faux. Mais ils ne revenaient jamais. Pour certains, ils sont revenus à l'île de la Réunion 50, 60 ans plus tard.
Alors, certains enfants étaient adoptés, plutôt bien traités, hein, parce qu'il y avait des parents aimants en métropole, mais la plupart étaient devenus, danse avec tes chaînes, hein, on voit bien, des esclaves, notamment dans les fermes de la Creuse. Quoi.
Oui, il y a eu certains qui ont eu plus de chance que d'autres. Ils sont arrivés dans des foyers au milieu de nulle part, sans vraiment savoir ce qu'ils faisaient là. Ils ont été placés dans des familles d'accueil, dans Danse avec tes chaînes, c'est dans une famille à Guéret. Enfin, près de Guéret. Et ils deviennent garçons de ferme, femmes de ménage.
Et c'est le cas, et on arrive directement à votre roman, Annaëlle Jeunat. C'est le cas de Marie-Thérèse, qui est la narratrice dans votre roman, et aussi de ses deux frères et de sa sœur.
Oui.
Voilà, c'est finalement, la famille que vous décrivez, c'est un peu le portrait robot des enfants de la Réunion, en fait. C'est un cas d'école, en fait, de ce qui s'est passé avec ces enfants.
Oui, c'est pour ça que j'ai voulu prendre une fratrie, parce qu'on a plusieurs visages, on a plusieurs destins, plusieurs trajectoires. Et évidemment, c'est un peu dur de montrer l'histoire de 1600 enfants. Donc, ces quatre enfants, un peu, me permettent d'explorer cette histoire.
Oui, parce que chacun a un destin différent.
Exactement.
Avant de partir vers la métropole, les enfants sont regroupés dans une école de bonnes sœurs à Saint-Denis, de la Réunion, avant d'être envoyés en avion. Alors, cela dit en passant, la République laïque s'est servie de religieuse pour faire le gardiennage des enfants avant le grand départ. Il n'y a pas une sorte de paradoxe, là, on parle beaucoup de laïcité, etc. Là, on était bien contents de trouver des bonnes sœurs pour faire le sale boulot de l'État, en fait. Hein.
Oui, bref. C'est toujours comme ça, hein. On les prend quand ça nous arrange. Là, c'est un peu...
Il y avait une sorte de triage à ce moment-là, déjà
aux Pouponnières. Je pense que, de ce que j'ai lu, je me suis basée beaucoup sur les archives, le triage s'est surtout opéré en arrivant en métropole. Mais quand on les plaçait, oui, dans les églises, et on les donnait aux bonnes sœurs.
Et donc après, ils arrivent dans un foyer dans la métropole. On voit Marie-Thérèse pense arriver à Paris, la Tour Eiffel, surtout Notre-Dame.
Oui.
Elle a une petite photo d'un livre de Notre-Dame et pour elle, Paris, on vient en France et Paris et se retrouve dans la Creuse. C'est très bien la Creuse, mais ce n'était pas ce qu'on avait promis. Quoi. Donc ils sont séparés dans votre livre, cette fratrie est séparée. Et donc restent ensemble Marie-Thérèse, la grande sœur, narratrice, et son petit frère Joseph, et qui se retrouve donc chez René et Martine, paysans de la Creuse. Et là commence le cauchemar. Alors déjà, on va dire, le premier jour, ça se passe bien.
Oui.
Racontez-nous. Pourquoi ? Parce qu'ils sont gentils le premier jour, en fait. C'est ça,
ces
parents, entre guillemets, d'adoption.
C'est ça que je traite dans mon livre, c'est que la maltraitance, elle n'arrive pas du jour au lendemain, elle s'installe, c'est assez perfide. Et évidemment, ils essayent de faire bonne impression, comme n'importe quelle personne. Ils les installent, ils leur donnent à manger. Mais il y a quand même des signes qui indiquent que ça va,
qui ne sont pas adoptés. Alors, quels sont ces signes ?
On les met dans une vieille chambre, on leur dit de... On les presse un peu pour venir à manger, puis après, on les emmène à la ferme, on leur dit, voilà, ça va être ton nouveau travail.
Parce que les enfants pensent aller à l'école, en fait.
Et non.
Et ne vont pas à l'école. Mais comment la République a pu priver des enfants de l'école alors que l'école est obligatoire ?
Il n'y avait aucun suivi. Aucun suivi à cette époque. La plupart des assistantes sociales ne se déplaçaient pas. Et puis le sort de petits-enfants de La Réunion n'intéressait pas.
Alors ils sont battus. Petit à petit, ça vient parce que le René, là, quand il a bu un coup de trop, il tape.
Ouais.
Ils tapent les enfants, ils sont humiliés et ils travaillent à la ferme comme des esclaves, en fait.
Mm.
Parce qu'ils ne sont pas rémunérés, on leur donne simplement... Même, en fait, ils doivent faire à manger. C'est-à-dire que leur pitance, non seulement ils la gagnent, mais ils la font aussi.
Ouais.
Et à la ferme, ils font le travail d'ouvriers de ferme, en fait, c'est ça. Alors, arriver de La Réunion à une ferme de la Creuse et s'occuper des vaches, c'était un peu compliqué, non ? Donc, comment se passe l'apprentissage, justement ?
Alors, c'est une transition que je décris... Et qui est assez compliqué parce qu'évidemment, ils ne se sont jamais occupés de bêtes ni rien. Et c'est René qui s'applique à leur donner cette éducation. Ce n'est pas l'éducation qu'ils voulaient. Et voilà, ça vient avec le temps. Mais ils sont obligés de s'adapter, ils sont obligés de survivre.
Parce qu'ils n'ont plus personne, ils sont tout seuls.
Voilà, ils n'ont que l'un et l'autre.
Ils n'ont personne, il n'y a même pas de référent d'assistante sociale ou d'assistant social référent, un numéro où ils peuvent appeler.
Non,
on les abandonne comme ça, on les coupe du monde. Et il se passe quelque chose qui est terrible, c'est qu'on leur vole leur identité, c'est-à-dire qu'on change leur prénom. Marie-Thérèse devient Marie et Joseph devient Florent. Alors ceci est le fruit de votre imagination romanesque ou ça a vraiment existé ?
Non, c'est une réalité. On changeait les noms des enfants, en plus de leur demander d'arrêter de parler créole.
Et puis, racontez-nous ça, ça c'est important ça.
Oui, alors ils arrivent dans les foyers en métropole et on leur dit les règles de l'établissement et on leur dit ici on ne parle pas créole, sinon
alors que c'est leur langue,
c'est leur langue
quotidienne.
Exactement. Et il faut parler un bon français parce que maintenant ils sont en France. Et pour les prénoms, c'est une réalité. Et puis dernièrement, il y a une enfant de la Creuse là, il y a quelques mois, qui a pu enfin récupérer son vrai nom. Parce que pendant toute sa vie, là, elle a 60-70 ans, elle avait le nom d'une autre personne.
C'est-à-dire qu'on a enlevé l'autorité de leurs parents, on change leur nom, on leur vole, on annule, on fait disparaître leur histoire propre.
Oui, c'est un effacement culturel
complet.
Mais
c'est terrible. C'est absolument terrible, quoi. Alors, il y a une assistante sociale dans votre livre qui vient une fois. Alors, comme c'est prévenu longtemps en avance, Lamartine, la mère adoptive, plutôt la chef de famille, décide d'aller acheter des vêtements, etc., pour faire semblant, en fait.
Oui, c'est toujours les apparences.
Les apparences, oui. C'est-à-dire que l'assistante sociale ne voit rien du tout, elle ne voit pas que ses enfants sont malheureux.
Non, elle voit, je pense, ce qu'elle préfère voir.
Parce qu'il ne fallait pas faire de bruit, il ne fallait pas faire de scandale.
Il ne fallait pas faire de bruit, ils sont dans une famille, c'est le meilleur des scénarios pour eux.
On voit quand ils sont au foyer, au triage, là, quand ils arrivent, ils essayent d'écrire leur mère.
Oui.
Et le directeur du foyer, qui lui aussi est d'origine de La Réunion, en fait, n'envoie pas les lettres. Il bloque. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de contact. Et leur mère va mourir sans avoir une, ne serait-ce que des nouvelles de ses quatre enfants.
Et c'est une réalité. Les enfants essayaient de reprendre contact, et puis les parents aussi. Mais il y avait toujours quelqu'un... quelque chose qui bloquait, la plupart du temps, c'était l'administration. Et pour beaucoup, ils n'ont jamais retrouvé la trace de leur famille.
C'est le moment de passer un peu de lecture.
Oui.
Alors, comme à chaque épisode, j'ai choisi pour l'invité un extrait de son roman. Anel Jonah, pouvez-vous nous lire la page 211, s'il vous plaît ?
Pendant l'enfance et l'adolescence, je pris l'habitude d'habiter la maison d'étrangers, de me glisser dans les draps qui ne m'appartenaient pas. Aujourd'hui, il est rare que je passe la nuit chez quelqu'un. Quand on trouve sa maison après des années de recherche et d'errance, on ne veut plus la quitter. Aussi, chaque nuit passée dans la Airbnb m'est épouvante. La charpente de l'immeuble crie sous mon poids, les sons de la mer au loin adoptent des accents sinistres et clivants. J'ai trop froid, trop chaud. Mes yeux ne réussissent pas à se fermer tout à fait. Ils croient discerner, dans le coin de la pièce, une masse familière de par sa largeur. Quelque chose, non, quelqu'un, est assis sur le fauteuil. Un homme.
C'est très beau. Il faut dire que ce livre est très, très bien écrit.
C'est gentil.
Moi, de toute façon, c'est simple. Je n'invite pas dans mon podcast de gens qui n'écrivent pas bien. Voilà. Il y a suffisamment d'émissions où on invite des gens qui racontent sûrement des choses très intéressantes, mais où l'écriture ne compte pas. Et les auditeurs des livres RMC, du podcast littéraire d'RMC, aiment les gens qui écrivent bien. Raison pour laquelle je vous ai demandé de lire cet extrait, parce qu'il est beau, mais aussi parce qu'il résume bien le traumatisme de ses anciens enfants, parce que là, c'est Marie-Thérèse qui parle.
Oui.
Elle est redevenue Marie-Thérèse et elle parle en tant qu'adulte. Pourquoi avoir choisi Marie-Thérèse comme narratrice ? Parce que vous dites « je », c'est Marie-Thérèse qui raconte. Hein.
Oui, j'avais besoin en fait d'avoir quelqu'un, d'avoir une voix pour incarner le récit, afin que les gens puissent s'identifier à cette histoire. C'est pour ça que j'ai choisi le roman aussi, au lieu de faire un essai ou quelque chose, parce que je suis aussi journaliste.
Et puis, parce que ça donne de la chair, en fait.
Exactement.
Et on a peut-être plus d'empathie pour ces personnages, justement, parce qu'ils sont vraiment incarnés.
Mm.
Voilà, c'est parce que souvent, quand on fait une enquête journalistique, on parle de gens, voilà, de plein de gens.
Oui.
Voilà, on parle de chiffres, on parle de statistiques. Là, on a vraiment, vraiment l'histoire incarnée. Et ça, c'est, et Marie-Thérèse, elle est passionnante. Et puis Marie-Thérèse, c'est Marie-Thérèse enfant et Marie-Thérèse adulte. Donc il y a des flashbacks aussi. Et on ne se perd jamais. Hein. C'est très, très bien construit parce qu'on ne se perd jamais dans l'histoire. Alors, Marie-Thérèse revient à La Réunion pour la première fois. C'est très dur pour elle parce qu'elle est âgée, elle est malade, physiquement et psychologiquement. C'est très, très violent que ce retour. On le sent bien dans l'extrait.
Oui, c'est un retour qui n'est pas facile, qui ne pouvait pas être facile. Oui, c'est la première fois depuis des années parce que elle avait peur de ce retour à l'île de La Réunion. Elle avait peur de ce qu'elle allait y retrouver. Mais une fois qu'on est malade et qu'on n'a plus rien à perdre, il faut entreprendre ce voyage.
Elle revient pour un hommage à son frère Joseph, qui est décédé et qui avait écrit un recueil de poèmes qui avait fait sensation et l'avait rendu célèbre.
Oui.
Joseph Gosse.
C'est un peu le mythe du poète maudit qu'on apprécie tous et toutes, je pense, et qui élève Joseph à ce mythe, cette figure de la poésie.
Vous m'avez bien eu, Annel Jonas.
Ouais,
vous m'avez bien eu parce que je me suis dit, tiens, je ne connais pas ce poète. Et j'ai regardé sur Google, je ne trouvais aucune trace du poète Joseph Gosse. Ouais. Il est sorti de votre imagination. Alors là, franchement, moi, vous savez, j'aime quand les romancières, les romanciers m'emmènent là où ils veulent. Et là, mais vous m'avez emmené là. Mais j'ai cherché pendant un moment. Je dis, non, mais ça, alors peut-être qu'il n'était pas très connu, mais non, il n'existe pas.
Mon éditeur a fait la même chose. Quand il a lu mon manuscrit, il est parti chercher sur Google. Et après, il m'a dit, mais tu m'as eu aussi.
Le roman est agrémenté justement de plusieurs poèmes de Joseph Gosse.
Oui.
Et on peut le révéler, vous êtes l'auteur. L'auteur, d'accord. Au bout, vous dites autrice, moi j'aime pas trop ce mot-là, l'auteur de ces poèmes, parce que vous êtes aussi une poétesse.
Exactement, oui, j'écris de la poésie depuis que je suis enfant, comme le roman. Et la poésie permet d'aller au-delà des frontières linguistiques, culturelles, et puis ça permet aussi d'avoir deux modes d'expression propres à chaque personnage. Donc ça se répond un peu, le récit, la poésie.
Oui, c'est très bien, parce qu'il n'y en a pas trop, il y en a 3-4 à peu près. Non, c'est distillé juste comme il faut. Alors, vous êtes poétesse, où est-ce qu'on peut retrouver vos poèmes?
Alors, c'est sur Instagram, c'est Parisian Poetry.
Je suis abonné.
Et oui.
Donc, je vous conseille d'aller voir sur Parisian Poetry. Ouais, c'est en anglais, mais bon, que voulez-vous.
Il n'y a que le nom qui est en anglais.
Parce qu'après, les poèmes sont en français. Alors, les personnages de votre roman, Annaëlle, sont très bien construits. Je dirais même qu'ils sont très bien sculptés. Quelle recherche historique avez-vous faite pour que ces personnages, leurs histoires, soient vraiment crédibles?
Je me suis beaucoup basée sur les archives parce que je n'avais pas envie de
prendre... Les archives officielles.
Voilà, les archives officielles, plutôt que les témoignages, parce que c'est des récits personnels. Et donc, c'était en 2016... 2016, oui. Il y a eu tout un conseil d'État pour enquêter sur ça. Et puis, ils ont sorti un rapport de 680 pages qu'il a fallu lire, qu'il a fallu étudier. Et il y avait aussi ce livre d'Yvan Jablonka sur les enfants de la Creuse qui détaille, qui est pareil, basé sur des archives. Donc, c'était une recherche très historique.
Danse avec tes chaînes est le titre de roman. Vous l'avez emprunté à quelqu'un?
Oui, c'est une citation qui est attribuée à Nietzsche qui dit que la liberté, c'est savoir danser avec ses chaînes. Et c'est ce que découvrent les personnages dans ce livre.
Alors, dans cette vie horrible de jeune esclave au XXe siècle, il y a aussi de l'espoir. Ça, c'est important. Il y a des amitiés. Commencez par Simon, jeune gars du village de la Creuse.
Oui, parce qu'évidemment, quand on est enfant, ce qui compte le plus, surtout pour eux, parce qu'ils n'ont pas de famille, c'est les amis. Et Simon vient apporter un peu de lumière, entre autres.
On se rend compte aussi que Simon, lui aussi, est esclave. Esclave, quelque part, de sa vie, de sa famille, ouais. Avec une mère qui boit, de son village. Donc, ce n'est pas manichéen, en fait. Ce n'est pas les pauvres petits enfants de La Réunion chez les privilégiés de la Creuse.
Non.
Et ils se reconnaissent. C'est pour ça qu'ils deviennent amis aussi. Parce que Simon, quelque part, c'est un enfant désœuvré aussi.
Exactement. Ils reconnaissent l'un et l'autre la peine et le désespoir.
Marie-Thérèse est plus tard aidée par les propriétaires d'un restaurant à Paris où elle travaille. Elle va même accéder au milieu littéraire. Moi, j'aime beaucoup aimer, on ne va pas tout révéler, mais bon, on peut le dire. Elle sort, elle quitte la ferme, elle quitte la Creuse et elle va à Paris. Et là, là aussi, il y a quelques messages d'espoir parce qu'elle rencontre des gens bien, Marie-Thérèse.
C'est ça, tout n'est pas noir. Une fois qu'on arrive à s'extirper, c'est ce qui est quand même très difficile. On peut quand même arriver à quelque chose. On peut quand même faire quelque chose de sa vie.
Moi, je vous propose une petite respiration musicale. Alors, avec mon premier invité, Philippe Collin, nous avions diffusé une chanson de 1942. Avec mon deuxième invité, Bernard Lyons, une chanson de 1991. L'intérêt aussi de recevoir une jeune femme comme vous, Anaëlle, est que cela permet d'écouter une chanson un peu plus récente, et même un rap. Quel morceau avez-vous choisi et pourquoi ?
Alors, c'est un petit groupe de rap qui s'appelle Cuck Boys. Donc, le rap, c'est ce que je disais, c'est un gros lien avec la poésie. Au niveau des textes, il y a quand même une recherche linguistique. Et ce sont trois jeunes garçons qui ont sorti leur premier album. Et voilà, on va écouter.
Je découvre avec vous.
Ah.
Enfin, je l'ai écouté une fois, mais j'ai bien aimé, ce qui est rare pour moi, pour le rap.
C'est très accessible, je trouve.
Oui.
Bien ni mal, il est le bonheur, il est la fenêtre et le casseur, il est leader et le poseur, il est buteur et le passeur. Prochain summer, il sent si seul, quand ça va pas, il s'isole. Il regarde des films, il fixe le sol, il danse son lit, yeux au plafond. La nuit est blonde, ses yeux sont noirs, la lune pleure, ses larmes brillent. Ouais, c'est encore un de ces soirs, ce sera donc jamais fini. Elle a dit, on se voit demain, il a dit, je suis triste, c'est la pluie qui fait tout ce bruit. Tout est gris, elle entend plus, c'est le jour ou bien la nuit. Tout est gris, il reconnaît plus, il a envie. Elle a envie, mais c'est fini. Il s'en grandit, son attention, c'est un bandit. Comme un couteau qu'elle a brandi, comme un mot qui voulait lui dire, comme un jour de repos lundi. Il a soufflé, il revit. Elle a bien disparu de sa vie. Ne reste plus que son ennui et ce froid glacial qui le saisit. Dehors, les fleurs ont fané. Elle a dit, ça va mieux. Il a dit, franchement, c'est pire. Y'a plus de rose, y'a plus de bleu.
On était deux, on était bien, on était bleu, on était clean. Là, je fais semblant, en vrai, t'es parti. Mentalement, je fais comme si ça sert à rien de me raisonner, je suis toujours comme ça. Pourquoi autant de soucis? Pourquoi gagner des soucis? C'est pour avoir l'impression d'en avoir moins que quand j'en gagnais pas. Voilà,
Cuck Boys. Ma vie
résumée. C'est ça.
Sunrise. C'est pas mal, hein?
Ouais, c'est très agréable. Ouais.
Alors revenons sur les autorités françaises, on l'a un petit peu évoqué, mais j'aimerais qu'on parle un peu plus de cela parce que. En gros, on a caché cette horreur pendant des années. Et il faudra attendre un reportage au JT de TF1 de 2002 pour qu'on en parle publiquement. L'Assemblée nationale reconnaîtra en 2014 la responsabilité morale de l'État envers ces enfants qui étaient devenus des pupilles de la nation.
Oui, et puis il y a eu aussi un procès au début des années 2000 d'un enfant de la Creuse. Et il y a eu prescription, parce que les faits dataient
bah oui.
Il y a très longtemps.
Il était enfant.
Exactement. Ah oui. Mais c'est comme ça que la parole s'est un peu déliée, parce que sinon, on ne les écoutait pas vraiment.
Les conséquences psychologiques de ces déracinements étaient nombreuses, et certains ont même été internés dans des hôpitaux psychiatriques. Mmh. Et pour la plupart, beaucoup ont eu beaucoup de mal à s'insérer dans la société et sont aujourd'hui au RSA.
Oui, oui, oui. Bah, on n'a pas d'opportunité quand on est placé dans des foyers comme ça, et quand en fait, l'État ne s'intéresse pas à ce qu'on devient.
Avec ce roman, votre objectif était-il aussi de faire parler à nouveau de ce scandale ?
Oui, 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 j'avais vraiment envie. C'est un pan méconnu de l'histoire. Et même si c'est la petite histoire dans la grande, c'est tout l'intérêt.
Mais c'est justement parce que la petite histoire dans la grande nous permet de mieux comprendre la grande.
Oui.
Parce que c'est tellement bien incarné. Enfin, bravo. Vraiment, Anaëlle, j'ai adoré ce roman formidable. Qui, en plus, au niveau de l'écriture, gagne en force au niveau des pages. C'est-à-dire que plus... J'ai osé un mauvais jeu de mots, on est enchaîné à ce roman, Danse avec des chaînes, plus on avance. Allez, passons à un rendez-vous que j'aime beaucoup et que les auditeurs aiment beaucoup. C'est le moment du questionnaire de Fred. Des réponses courtes. Où écrivez-vous ?
Dans mon lit.
Quand écrivez-vous ?
Le soir.
Avez-vous des superstitions au moment de l'écriture ?
Non.
Écoutez-vous de la musique quand vous écrivez ?
Parfois, s'il y a beaucoup de bruit.
Quelle est la plus grande différence entre écrire un poème et écrire un roman ?
La préparation.
C'est-à-dire ?
Je prépare davantage quand je m'attelle à un roman pour la structure, les personnages. Je fais des plans, voilà.
Le poème, on est plus...
Voilà, c'est sur le moment, c'est l'émotion, c'est autre chose.
Quel livre vous a-t-il marqué le plus quand vous étiez enfant ?
Alors, il y en a plusieurs. Il y a eu Rimbaud, les poèmes de Rimbaud, et aussi la saga Harry Potter, ce qui est assez cliché, mais je suis rentrée dans la littérature via les récits fantastiques.
C'est très bien de le dire. On méprise souvent ce genre de littérature, et pourtant elle a amené à la lecture, non seulement à la lecture, mais à l'écriture, ce qui n'est pas rien. Sortir un roman chez Fayard, ce n'est pas rien. Quel est le livre le plus important de votre vie ?
Le Petit Prince.
Êtes-vous une adepte de la lecture de plusieurs livres en même temps ?
Oui.
Quel livre pourriez-vous recommander à des parents qui veulent donner le goût de la lecture à leur enfant ?
Le Petit Prince.
Quel conseil pourriez-vous donner à quelqu'un qui n'arrive plus à lire un roman en entier ?
Se diriger vers un livre, vers un sujet qui nous intéresse et un format aussi. Parce que ce n'est pas obligatoirement les romans, il y a plein de moyens différents d'aller vers la lecture.
C'est le moment de faire un petit appel. Il y a quelques jours, je suis allé à la maison d'arrêt d'Arras à la rencontre de détenus avec l'association Lire pour en sortir, qui a pour mission de faire entrer la littérature en prison. Marie-Pierre Lacabaratz, la directrice de cette association, est au téléphone avec nous. Bonjour Marie-Pierre.
Bonjour.
Alors avant de nous recommander vous aussi un livre, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots comment votre association aide à la lecture dans le milieu carcéral ?
Alors notre association, elle aide à la lecture en milieu carcéral de deux manières. Une manière totalement singulière, puisqu'elle met en place des programmes individuels de lecture qui permettent à une personne détenue de rencontrer toutes les semaines un bénévole formé par l'association autour d'un livre que la personne détenue a choisi dans une offre de lecture très accessible, puisque en milieu carcéral, nous trouvons beaucoup, beaucoup de personnes qui sont très éloignées de la lecture et de l'écriture.
On aura l'occasion de revenir sur votre action, parce que je collabore avec vous depuis plusieurs années. C'est absolument formidable ce que vous faites. Donc vous viendrez bientôt dans notre podcast des livres RMC. Quel livre pouvez-vous nous recommander, s'il vous plaît, parce que vous êtes aussi une grande lectrice, Marie-Pierre?
Bah, c'est presque obligé quand on travaille à lire pour en sortir. C'était une passion que j'avais avant. Alors le livre que je pourrais recommander parmi les très beaux livres de cette rentrée littéraire, j'ai envie de faire un petit focus sur Le Club des enfants perdus de Rebecca Ligieri, que j'ai dévoré, que j'ai adoré. Pourquoi ? Parce que d'abord c'est un livre dans sa forme assez intéressante. C'est un livre choral qui met en face à face un père, Armand, comédien et père de Miranda. Et cette jeune femme, Miranda, qui, lorsque nous découvrons son existence dans le livre, a 24 ans, a toujours été étrange et étrangère au monde dans lequel elle vivait, avec des qualités un peu embarrassantes, à savoir qu'elle est un peu extra-lucide et qu'elle devine tout de ce qui se passe chez les autres, et notamment chez son père et chez sa mère. Donc c'est un livre brillant, où on rencontre Shakespeare, où on est aussi confronté à la destinée de la génération tragique des 27, puisque Miranda choisira de partir de cette vie à 27 ans. Et voilà, et c'est un livre poignant, assez singulier, qui nous bouscule aussi. Il y a une forme d'écriture particulière, des thèmes qui sont abordés, la sexualité, la pornographie, les masques aussi qui nous caractérisent dans notre vie sociale, et avec des vies souterraines que parfois nous cachons un peu tous.
Rappelez-nous le titre et l'auteur de ce roman que vous nous recommandez.
Donc c'est Le Club des enfants perdus de Rebecca Ligieri, édité aux éditions Paul.
Merci beaucoup Marie-Pierre Lacabaratz, directrice de l'association Lire pour en sortir. À très très bientôt sur les ondes d'RMC dans notre podcast des livres RMC. Bonne journée, au revoir.
Merci Frédéric, à très bientôt, au revoir.
À très bientôt. À votre tour Anaëlle Jonas, un livre à nous conseiller ?
Oui, L'autre Rimbaud de David Le Bailly. C'est le dernier livre que j'ai lu et que j'ai beaucoup apprécié. Ça parle du frère d'Arthur Rimbaud qui s'appelait Frédéric et qui a vécu dans l'ombre, que ce soit pendant sa vie ou après sa mort, dans l'ombre de Rimbaud. Et on n'en parle pas assez. Puis David Le Bailly a fait un vrai travail de journaliste parce qu'il a retrouvé les traces de Frédéric, ce qui n'était pas facile, et en plus de romancier parce qu'il se met dans la tête de Frédéric.
Merci beaucoup, Anaëlle Jonas.
Merci.
C'est de quelles éditions ?
C'est les éditions L'Iconoclaste.
L'Iconoclaste. Alors, pour ma part, aujourd'hui, je vous recommande le roman de Claire Barillet, Les sœurs et autres espèces du vivant, aux éditions Arléa. Un roman qui raconte l'histoire de deux êtres aux vies et aux caractères très différents. Une magnifique exploration de la force et du mystère de la relation entre deux sœurs. C'est déjà la fin du troisième épisode de votre podcast des livres RMC. Merci à Noël Jonas, merci beaucoup, à bientôt.
À bientôt.
On rappelle le titre de votre roman, Danse avec tes chaînes, qui vient de paraître chez Fayard. Très belle émission la nôtre, mais très belle maison d'édition chez Fayard. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. Ce podcast est à écouter et réécouter à toute heure du jour et de la nuit sur rmc.fr et l'appli RMC, et toutes les autres plateformes d'ailleurs. N'hésitez pas à partager le lien sur les réseaux sociaux et surtout, abonnez-vous. Et on se quitte, comme toujours, avec un peu de musique d'Astor Piazzolla. Et allez, quelques vers de Paul Éluard. Je t'aime pour toutes les femmes que je n'ai pas connues. Je t'aime pour tous les temps où je n'ai pas vécu. Pour l'odeur du grand large et l'odeur du pain chaud. Pour la neige qui fond, pour les premières fleurs. Pour les animaux purs que l'homme n'effraie pas. Je t'aime pour aimer. Je t'aime pour toutes les femmes que je n'aime pas.
Des livres RMC.